Sur votre radio locale, une chronique pour comprendre l'économie avec Max. Max Deleval, bonjour.
Bonjour Laura, bonjour à tous.
La guerre au Moyen-Orient déstabilise de nombreux marchés, celui de l'énergie en particulier. Mais ne révèle-t-elle pas une crise plus profonde ? La crise de 1929 n'éclaire-t-elle pas celle de 2026 ?
Oui, quelques faits. Les bourses ont monté en 2025. Le CAC 40 parisien a gagné près de 10% en 2025 et 40% depuis le début de 2020. Et aujourd'hui, même si les négociations entre les belligérants patinent, les bourses mondiales ont choisi de tourner la page du conflit. À Wall Street, les grands indices ont dépassé leur niveau de fin février, période qui marque le début de la guerre en Iran.
Rappelle-nous ce que signifient ces indices.
Eh bien, le CAC 40 signifie cotation assistée en continu. C'est-à-dire que les cours des actions sont calculés en temps réel en fonction des achats et des ventes. Le CAC concerne en particulier un panier de 40 valeurs de sociétés françaises, comme par exemple Vinci, Total Energy, Renault, Orange, Safran, Airbus, Hermès, Dassault, LVMH, Bouygues, AXA, etc. Quant à Wall Street, le NYSE ou New York Stock Exchange cote les titres, supervise les activités de ses membres et établit les règles du marché. Il comprend l'indice Dow Jones, le Nasdaq et le SP500. La valeur du Dow Jones correspond à la moyenne pondérée du cours de bourse de 30 actions américaines sélectionnées. Le SP500 suit 500 entreprises pondérées par capitalisation. Le Nasdaq concerne principalement les entreprises de la haute technologie ou de services comme Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet ou Intel.
Et y a-t-il une correspondance entre la crise de 1929 et les menaces de crise actuelles ?
Oui. La crise de 1929 est le résultat d'un entraînement rationnel, adopté par tous, qui glisse vers une spéculation débridée, rendue possible par un cadre juridique peu contraignant. Le délit d'initié n'existe pas encore. La couverture des risques n'est pas régulée par la loi. Par ailleurs, se développe une propagande pour la démocratisation de la finance. Elle part des politiques de crédit des producteurs d'automobiles, puis des chaînes de grands magasins. Cependant, dans une économie très inégalitaire, cette démocratisation reste très limitée. Elle permet en revanche aux initiés de profiter au maximum de leur information, tant dans leur arbitrage boursier que dans la sélection de portefeuille. Les autres seront les premières victimes du krach, ce qui les obligera à revendre à perte et à rembourser des emprunts parfois considérables.
Et aujourd'hui ?
Eh bien, il y a une résonance avec notre temps. En effet, il y a un enthousiasme pour les nouvelles technologies de l'information qui joue un rôle important dans la bulle boursière. Il pourrait aussi y avoir une crise du crédit privé. En effet, le crédit privé est une forme de financement par endettement fournie par des prêteurs non bancaires directement des entreprises. Ce crédit s'effectue en dehors des marchés obligataires et du système de crédit traditionnel. Ce marché a ainsi quadruplé depuis 2010 pour dépasser 2000 milliards de dollars, soit 1730 milliards d'euros. Or, ces gestionnaires de fonds peuvent être confrontés à des retraits massifs qu'ils peineraient à honorer si la collecte ne progresse plus. Les investisseurs ont particulièrement prêté aux éditeurs de logiciels. Or, le développement de l'intelligence artificielle remet en cause la valeur de ces logiciels. Il y a une interconnexion entre les marchés privés et les autres institutions financières, les banques, les compagnies d'assurance. La crise actuelle pourrait faire monter les taux d'intérêt, qui augmenterait la charge de la dette et la multiplication des défauts de paiement. L'Europe, quoique moins impliquée, n'est pourtant pas à l'abri d'une contagion. À surveiller.
À surveiller, Max. Merci pour ta chronique.
À bientôt.
À bientôt. Pour plus de chroniques éco avec Max, rendez-vous sur le www.radiopfm.com.